Donc on en est au premier point de la méditation sur la mort, voir tous les désavantages qu'il y a donc à ne pas se rappeler de la mort. Donc le texte dit à chaque instant. Déjà, si on s'en rappelle déjà au quotidien, si on a des rappels comme ça tous les jours de notre mortalité, c'est déjà bien. Chaque instant, c'est peut-être un petit peu difficile. Donc, je vous rappelle. Je vous enverrai un canevas, hein, de toute façon. Ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à prendre des notes, je vous enverrai le canevas de la méditation. Hein. Comme ça, vous pourrez le mettre en pratique. Mais je vous rappelle les 6 points. Donc, si on ne se rappelle pas, justement, de notre mortalité, on ne se rappellera pas du dharma. C'est le premier point. On ne se rappellera pas de la pratique. Ça ne viendra pas dans notre champ de conscience. Premier point. On ne se rappellera pas le dharma. Deuxième point, même si on se rappelle du dharma, on en différera la pratique parce qu'il y aura des choses plus importantes qui viendront à faire. Donc la pratique passera après. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, même si on essaie de pratiquer, notre pratique manquera de pureté parce qu'elle ne sera pas alimentée par cette réflexion sur la mort, sur l'impermanence. Quatrième point, même si on pratique, notre détermination à pratiquer le dharma manquera de continuité. Ce ne sera pas une pratique continue et on finira peut-être par le laisser tomber complètement. En tout cas, ce sera une pratique très discontinue. C'est le quatrième point. Et une pratique discontinue ne donne pas vraiment d'effet. Si on pratique un jour, il vaut mieux pratiquer peu et tous les jours que pratiquer beaucoup un jour et ne plus rien faire pendant un mois. C'est comme quand on apprend un instrument de musique, c'est pareil. Si on s'entraîne une fois de temps en temps, alors qu'il vaut mieux s'entraîner tous les jours, et puis après, accroître cette durée de pratique. Au début, il ne faut pas trop non plus se mettre la barre trop haut, parce que c'est ça qui fait qu'on s'épuise. Hein. Au début, on est plein d'enthousiasme, on pratique avec beaucoup d'acharnement, on ne veut plus aller travailler, on ne veut plus rien, on veut faire que ça, pratiquer, rester sur le coussin face à l'autel. Ce n'est pas forcément ça, pratiquer non plus. Hein. Pratiquer, ce n'est pas toujours rester assis sur son coussin en invoquant des déités ou je ne sais pas quoi, ou en méditant sur l'imbrime. Ça veut dire aussi aller à ses occupations habituelles, mondaines, disons, mais avec une motivation qui n'est pas mondaine, avec une motivation plus de dharma, justement, qui est, par exemple, en faisant ces activités, en ayant toujours le souci du bien des autres, de faire le bien des autres, et de mélanger action et méditation. C'est l'idéal. Donc, pratiquer ne veut pas simplement dire rester assis sur le coussin, je précise bien là-dessus. Donc, quatrième point, donc, c'était ça, on perd sa détermination à pratiquer, si on ne se rappelle pas de la mort. Cinquième point, on va continuer à créer des actions négatives parce qu'on ne va pas faire suffisamment d'efforts pour les éviter. Et donc, si on continue à créer des actions négatives, on va devenir inapte à la libération. On ne pourra pas atteindre la libération. Ça sera ces actions négatives, ces perturbations mentales vont mettre des freins et nous empêcher de pratiquer, d'atteindre la libération. Pardon. C'est-à-dire qu'on ne fera aucun effort pour essayer de contrôler notre esprit, en fait. On fera peut-être des pratiques comme ça, en méditant un petit peu avec l'esprit ailleurs, mais la véritable essence de la pratique, qui est de contrecarrer, d'éliminer nos perturbations mentales, on n'y touchera pas, en fait. On passera complètement à côté, parce qu'on ne verra pas forcément l'intérêt. On arrivera à se débrouiller, comme ça, dans notre petit samsara, et puis tout ira bien. Mais ce n'est pas ça, la pratique. C'est justement de mettre un terme à ces perturbations mentales. Et le sixième inconvénient, c'est qu'au moment de la mort, on va ressentir l'intense regret d'avoir gaspillé cette précieuse existence humaine. Donc voilà les six inconvénients à ne pas avoir conscience de la mort. Parce qu'en fait, si on n'a pas conscience de la mort, on va laisser courir en fait, nos perturbations mentales. On va toujours être préoccupé par les dharmas mondains, les préoccupations mondaines, et qui donnent à la vie beaucoup plus d'importance qu'à la pratique du dharma. Donc nos perturbations mentales vont continuer à s'accroître. vont continuer à augmenter. Et on ne va rien faire pour les éliminer. Et finalement, finalement, la pratique n'a pas beaucoup de sens à ce moment-là. Voilà. Donc il faut réfléchir à ça. Ça fait partie de la première phase de la méditation sur la mort, de bien voir que c'est important. Voilà. Donc le deuxième point, c'est de voir les bienfaits, les avantages qu'il y a à se rappeler la mort, ce rappel de la mort, d'avoir conscience de la mort. Donc premier avantage, c'est que notre pratique va devenir très pure. Notre pratique va devenir pure automatiquement. Elle va prendre une qualité très différente. Et ça, on peut le voir. Il n'y a pas besoin d'être un grand maître pour ça. À notre niveau initial, on voit que dès qu'on a cette pensée, ce rappel de la mort, automatiquement, la pratique prend un sens immédiat, une pureté immédiate. On appelle ça une pureté, voilà. Deuxième avantage, notre activité, bien sûr, pour le bien des êtres, bien sûr, nos activités bénéfiques, ça s'entend, vont devenir plus puissantes et plus efficaces, hein, automatiquement. Ça va canaliser, ça va leur donner une intensité qu'elles n'ont pas sans ce rappel de la mort. Donc ça, c'était le deuxième avantage. Alors ensuite, le texte dit que ce rappel est bénéfique au début de la pratique du dharma. Hein? Au début, parce que c'est ça qui va nous motiver à pratiquer. On ne veut pas mourir en ayant regretté, en ayant passé à côté de notre vie, quoi. Donc c'est au début de la pratique, quand on est encore débutant, c'est la pensée de la mort qui va nous inciter, qui va nous aiguillonner pour pratiquer, pour nous mettre à pratiquer, pour commencer à pratiquer, hein, en voyant l'utilité qu'il y a à le faire. Ça, c'est le troisième point. Quatrième, c'est la suite. Ce rappel est bénéfique au milieu de notre pratique. C'est-à-dire au milieu, c'est-à-dire pendant qu'on a un certain niveau, on a commencé à pratiquer, et ça va donner de la continuité à la pratique. On ne va pas abandonner. On va peut-être, en pratiquant, on va rencontrer des situations difficiles. Hein, faut pas se leurrer. Ça, tout va pas être rose. On va rencontrer des événements, des problèmes. La vie va continuer. On sera confronté à des situations. Mais du fait de rappel de la mort, on va pas être découragé. On va pas se décourager. On va pas perdre de notre élan, de notre enthousiasme à pratiquer. Et là, c'est pour ça qu'on appelle ça le rappel bénéfique au milieu de la pratique. Hein, c'est parce que ça encourage à pratiquer. On voit qu'on peut traverser ces problèmes. Hein. On ne se laisse pas abattre. Le cinquième point, ce rappel est bénéfique à la fin de notre pratique. Donc au début, au milieu et à la fin. Parce que c'est ça, donc justement, qui va nous faire atteindre l'éveil en fin de pratique, ou la libération, ce qui va nous donner le dernier ressort. Vous savez, les pensées mondaines, les préoccupations mondaines sont très, très pernicieuses. Hein. Elles peuvent se glisser sous toute forme de choses subtiles. Et là, jusqu'au bout, ça veut dire qu'on va être de plus en plus fort pour éliminer ces préoccupations mondaines. Souvenez-vous, l'exemple du Bouddha, par exemple, qui, sous l'arbre de la Bodhi, a été encore assailli parce qu'il y a ce qu'on appelle les filles de Mara qui venaient le tenter avec leurs beaux atours, etc. Ou alors des forces qui étaient liées à l'aversion, des forces du mal qui venaient le perturber. Donc juste avant la fin, juste avant qu'à l'aube, le Bouddha atteigne l'éveil, il était encore perturbé par des formes, je ne sais pas, par des idées ou des pensées qui pouvaient être d'ordre mondain. Hein. Donc là, en fin de pratique, c'est-à-dire qu'on élimine complètement, on arrive à éliminer complètement ces préoccupations mondaines. Et le sixième point, le sixième avantage, c'est qu'à l'heure de la mort, on partira heureux, satisfait et heureux, sachant que l'on a donné tout son sens à notre vie. Donc voilà les six points qui nous mettent en avant les bienfaits donc, d'avoir conscience de la mort. C'est-à-dire qu'en plus on va avoir conscience de la mort, plus certaines choses vont nous apparaître comme futiles. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler ou qu'il faut arrêter de s'occuper de sa famille ou tout ça. C'est pas ça. Mais que tout ce qui est, on ne va pas leur accorder autant d'importance. On ne va pas leur donner trop d'importance. On va leur donner de l'importance, certes, mais pas une importance démesurée. Il n'y aura pas que ça. Il y aura un équilibre entre nos occupations d'ordre mondaine, on va dire, entre guillemets, et notre pratique, hein, entre les deux. Ça, on ne sera pas complètement happé par les préoccupations mondaines. Et petit à petit, on va se détourner un peu de tout ce qui est des comportements incorrects. Hein. Forcément, on va éviter de se mettre en colère. On va éviter d'être trop attaché à ça. Hein. On va équilibrer ces relations. Et donc, du coup, on va accumuler du bon karma. Hein. Donc, tout en ayant cette... accaparé par des devoirs familiaux ou sociaux ou professionnels, on continue à prendre refuge dans le dharma. Le dharma est notre véritable refuge. C'est pas le travail qui est notre refuge. Hein. Le travail, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vivre, pour survivre. Voilà. Mais c'est pas notre refuge. Notre refuge, c'est le dharma. Hein. Voilà, donc c'est une... On fait la part des choses, autrement dit. Ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Mais pas prendre refuge en des activités mondaines. Donc c'est ça que ça veut dire, hein, voir la futilité de ces choses-là. C'est-à-dire qu'on leur accorde de l'importance, certes, parce qu'il faut bien vivre, mais pas une importance démesurée. On ne prend pas refuge dans ces préoccupations mondaines. C'est ça que ça veut dire. Donc plus on va penser à la mort, plus ça va éradiquer en fait cette saisie aussi de la permanence. Hein. Souvent on a l'impression qu'on est jusqu'à la fin de nos jours, on va devoir travailler, on va devoir assurer pour la famille, on va faire plein de choses et ça va pas changer. Notre vision de la permanence fait qu'on a l'impression que voilà, on est condamné pratiquement et on ne peut pas pratiquer le dharma ben parce que là, on a une vie de famille, on a une vie professionnelle, on a des enfants à s'occuper, on a un mari, etc. etc. Et on se sent condamné comme ça. Bon, ça, c'est donner trop d'importance, justement, à ces préoccupations mondaines. Et c'est à ce moment-là que le rappel de la mort se dit, ben oui, mais je vais mourir. Et ça, c'est bien beau, mais eux, ils ne vont pas me suivre dans la vie suivante. Hein. Les parents, les enfants, et tout ça, il faudrait que je les laisse derrière moi à un moment donné. Et qu'est-ce qui va me suivre dans la vie suivante? Ben, c'est le travail que j'aurais fait sur mon esprit. Et donc, hop, ces choses-là sont importantes, certes, mais pas trop. Ce qui va être le plus important, c'est le refuge que je vais accorder au dharma dans les derniers moments de ma vie. Si j'arrive vraiment à prendre refuge au moment de ma mort, tout le reste, ça va complètement disparaître.
Hein. J'ai une question.
Oui, bien sûr.
J'ai une question. Merci. Par rapport aux expériences agréables. Non, c'est Susanna.
Ah, c'est Susanna, pardon.
Par rapport aux expériences agréables et fuir les expériences désagréables.
Oui, des dharmas mondains,
oui. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on est sensible ou trop sensible, quand il y a un problème familial qu'on essaie de résoudre avec de la gentillesse, de la compassion et que rien ne change?
Mais c'est ça, rien ne change. Vous avez l'impression que rien ne change. C'est ça, ce concept de permanence qui est délétère, à mon avis. Parce qu'on a toujours cette impression qu'il n'y a rien qui change. Mais si on revient justement sur l'impermanence, ça change. Ça change vraiment d'instant à l'instant. Et si on y met des bonnes motivations et une bonne action, une action positive, il y a quelque chose qui va changer. Ça ne va pas forcément changer du jour au lendemain. Parce que, bon, on est un petit peu pressé parfois que ça change, dans le sens où on voudrait que ça change. Et c'est pas parfois ça prend des détours avant de changer dans le sens où on voudrait que ça change. Mais en tout cas ça change. Hein. Donc tout ça c'est pour éliminer ce concept de permanence, hein. Vraiment, hein. Et de fixation sur la permanence des choses. Donc si la motivation est positive, laissez faire le karma, laissez faire les réactions des autres, laissez faire tout ce qui peut arriver. Votre motivation est bonne. Il faut qu'elle soit juste aussi, il ne faut pas non plus se tromper. Et laisser faire les choses, elles changeront. Après, il faut prendre. On aura un module sur le refuge. Hein, pas le prochain, l'autre après. On verra le karma. Merci. Là, on entame vraiment des pratiques très, très importantes. Hein. Précieuse renaissance humaine, mort et impermanence, karma et refuge. Si on s'en tient à ça, waouh! On a une belle vie humaine hein, avec ça. C'est déjà énorme. Même si on n'atteint pas la libération dans cette vie, on a quand même. On devient des bons êtres humains, quoi, parce qu'on voilà, on fait quelque chose de très, très puissant. Donc ça, ça viendra vraiment dans le refuge. Et si on a cette confiance totale dans le refuge, ben voilà, on laisse faire. Hein. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que oui, il y a d'autres questions par rapport à ça? Oui. Le micro, on cherche le micro.
Oui, c'était à propos des karmas mondains et des préoccupations mondaines et de la mort. En fait, j'ai l'impression que tout ça se rattache beaucoup à l'ego et que c'est une lutte générale contre l'ego. Et c'est lui qui nous fait refuser la mort, etc.
Oui, oui, parce qu'on attache une permanence à l'ego. Pour nous, l'ego l'entretient comme étant quelque chose de stable, de fixe, une idée que nous avons de nous-mêmes. Mais cette idée, elle peut évoluer, elle peut changer hein, aussi. Après, on a besoin aussi d'une certaine idée de l'ego quand même. Il faut avoir confiance en soi hein, aussi. C'est pas, il faut pas tout éliminer dans l'ego. Hein. Il y a une manière positive aussi d'envisager le moi, quoi, le je aussi. Hein. C'est pas forcément négatif hein, dans la mesure où il faut avoir confiance en soi. Donc confiance en soi, c'est pas forcément l'ego, c'est tout ramener à soi en fait. Hein. C'est ça qui est un peu délétère ou nuisible. C'est si on le ramène d'une manière excessive tout à soi. C'est en ce sens-là qu'on peut parler d'un ego un peu destructeur. Quoi. Mais après, l'ego, il a besoin d'être construit. S'il est bien construit, il perd ce côté négatif. En fait. Il peut acquérir des choses négatives. Et effectivement, donc la mort, bien sûr, c'est lié à ça. C'est lié à la peur de perdre cet ego auquel on a démesurément attaché. En fait. Mais on ne perd pas l'idée du moi. Quoi. Il y a quand même Après, cette idée du moi, elle peut être plus juste. Tu vois, elle n'est pas forcément obsessionnelle. Quoi, disons. De toute façon, quand on va en méditant sur la mort, sur l'impermanence, ça va faire, ça va diminuer tous nos désirs, enfin pas tous nos désirs, pas dans le sens négatif, pour cette vie. Ça va éviter de donner trop de préoccupations dans cette vie, trop d'intérêt à cette vie, et automatiquement les perturbations mentales vont diminuer. Les perturbations mentales, elles surgissent. Elles sont proportionnelles à l'intérêt que l'on accorde à cette vie et au moi et au jeu, à un jeu qui n'existe pas, hein. Un jeu que l'on a construit dans sa tête, qui est une pure hallucination et que l'on entretient comme ça. Ultimement, bien sûr qu'il n'y a pas de jeu. Hein. Mais nous, on a construit un jeu et on a l'impression que ce jeu, il faut qu'il existe. Donc, si on se rappelle que ce jeu, il y a un jeu qui va disparaître, tout ça, ou toute cette vie va disparaître, et les perturbations mentales vont tomber, parce qu'on va être moins attaché à tout ce qui fait, tous les désirs que l'on applique hein, à ce jeu. Tous les efforts que l'on fait pour satisfaire ce jeu. Nos comportements erronés aussi vont diminuer. On aura moins de désirs pour cette vie, donc moins de perturbations mentales, donc moins de comportements erronés, et on va être plus heureux. Et il y aura un jeu qui sera heureux quand même, là. Il faut que... Ben oui, il y a un jeu qui est heureux, forcément. Ça ne veut pas dire que le jeu n'existe, l'ego n'existe pas, hein, quand on dit l'ego, hein, quand on parle de ça. On a besoin d'un jeu, d'un jeu qui fonctionne. Hein, qui fonctionne bien, d'ailleurs. Ça, c'est très important. Hein, de pas, c'est pareil, quand on parle de la vacuité des phénomènes, ça ne veut pas dire que les phénomènes n'existent pas. Hein. Comprenez bien ça, qu'on parle du jeu ou qu'on parle des phénomènes ou qu'on parle de quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que ça n'existe. Quand on parle de la vacuité, ça ne nie pas le phénomène, ça nie l'existence véritable du phénomène. Hein ? Il y a une grosse nuance là. L'existence véritable du phénomène, c'est la réalité qu'on lui donne, hein, à ce jeu. Pourquoi on nourrit ce jeu ? Parce qu'on lui donne une réalité démesurée. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas du tout de réalité. Bien sûr qu'il en a une. On est là, quand même. Vous êtes tous là. Hein, on dit « j'existe, je suis assis là, je fais ci, je fais ça ». Ce jeu qui fonctionne au niveau conventionnel, on en a besoin. Hein, on en a vraiment besoin. Il existe.
Oui, je disais juste sur l'existence du phénomène. Si on parle de, je sais pas, de l'arc-en-ciel, par exemple, le phénomène existe, mais il n'a pas d'existence intrinsèque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de particules de, il n'y a pas de particules de couleur dans le ciel, mais nous on le voit bien, il existe le phénomène. Ouais. Le jeu, c'est pareil, il existe ou c'est juste là pour le coup, c'est.
Il existe, mais pas tel qu'il nous apparaît, comme l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel nous apparaît d'une certaine manière. Le mode d'existence et le mode d'apparence sont différents. Il y a un mode d'existence et un mode d'apparence. Un mode d'apparaître, si vous voulez. Il apparaît d'une façon qui n'est pas son existence. Mais bon, là, peut-être qu'on s'égare un peu. Là, sur le. Donc, je reviens au bienfait. Donc, cette pensée donc, de la mort, du rappel de la mort, c'est la porte, en fait, dit les textes, de toutes les qualités. Toutes les qualités, car elle élimine la saisie de la permanence, hein, la permanence que les choses existent comme ça, de manière permanente. Elle élimine le déni instinctif que l'on a de la mort. Et ça, c'est ça qui est libérateur, en fait. Hein. C'est ce déni instinctif de la mort qui nous emprisonne. Hein, et parce que la peur, elle est bien là. Mais on ne veut pas la voir, on ne veut pas se l'avouer, on ne veut pas la reconnaître, on la masque, on la cache. Donc si on accepte cette peur, on va la surmonter, forcément, en méditant sur la mort. Et donc elle éradique donc la saisie de la permanence, et la saisie de la permanence nous conduit à créer toutes sortes d'actions négatives. C'est à cause de cette saisie de la permanence que nous ne pratiquons pas vraiment le dharma, par exemple. Donc voilà pour ça. On fera bon le 3-9-3, on n'aura pas le commencer maintenant parce que on n'aura pas vraiment le temps. On fera plutôt ça demain matin. Mais je vais quand même le commencer un petit peu, juste les trois racines. Hein, trois racines. Donc c'est trois racines, 9 raisons et 3 conclusions. Donc là, on est vraiment dans la méditation sur la mort. Ce qu'on a vu avant, c'était un préambule, on va dire. Et donc, 3 racines, 9 raisons et 3 conclusions qui en découlent de ces raisons. Première racine, c'est des évidences. Hein, mais des évidences qu'on ne veut pas admettre. Alors, c'est pour ça qu'il faut y plonger dedans. Première racine, il est certain que nous allons mourir. La mort est une certitude. C'est certain. Donc ça, on verra après les raisons pour lesquelles la mort est certaine. On va essayer de développer ça à l'aide de raisonnement. Parce que c'est des méditations analytiques. Hein, sur ça. Deuxième racine, le moment où nous allons mourir est indéterminé. Il est incertain. La mort est certaine, mais le moment est incertain. Hein, c'est le deuxième point. Premier point, la mort est certaine. Le deuxième point, le moment de la mort est incertain. On sait tous qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand. Et donc ça va amener des prises de conscience. On verra après comment on va alimenter ces points. Au troisième point, troisième racine, à l'heure de la mort, rien d'autre que le dharma ne nous sera d'un véritable secours. D'un quelconque secours. Seul le dharma viendra à notre aide à ce moment-là. Tout le reste, zéro. Tout ce qu'on a pu entretenir dans cette vie, enfin, au niveau matériel, au niveau mondain, hein, toutes les relations, hein, tout, Tout ça, ça va disparaître. La seule chose qui va rester, ce qui va vraiment nous aider au moment de mourir, c'est le dharma. Donc voilà les trois racines sur lesquelles on va amener des raisonnements, hein, pour essayer de les nourrir. Hein. Parce que ça, on le sait, évidemment. Mais si on n'y amène pas des raisonnements pour les nourrir, ben voilà, on va méditer. Ok, il est certain que je vais mourir. Ok, je sais. Deuxièmement, ouais, ben, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Donc, ok, je ne peux vraiment plus avancer. Au moment de la mort, le dharma me sera vraiment bénéfique. Mais bon, comment ? Voilà. Donc tout ça, il faut le cultiver. Et plus on va méditer là-dessus, ben, bien sûr, plus on va le cultiver. Donc au début, ça peut paraître un peu, ça va de soi. C'est une évidence. Mais ce n'est pas vraiment une évidence, puisque c'est quelque chose qu'on refuse, on ne le vit pas au quotidien. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment d'évidence par rapport à ça. Et donc, on verra ça demain, comment on peut alimenter cette réflexion. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Oui, juste pour en revenir aux préoccupations mondaines, c'est aussi Lama-Zopa Rinpoché insistait beaucoup sur le fait de voir, hein, d'être conscient, d'être vigilant. Quand on parle de pleine conscience, c'est là où il faut agir. Quand est-ce que ces préoccupations mondaines prennent justement trop d'importance, hein, et être attentif à ça. Quand est-ce qu'on se laisse entraîner par ces préoccupations mondaines? Parce qu'en fait, ces préoccupations mondaines, elles nous font réagir par rapport à tous les événements et les personnes, hein, qui occupent notre vie, hein, si on regarde bien. Et donc, c'est intéressant de voir comment on se laisse dominer par ces préoccupations mondaines. Comment on réagit face aux événements, hein, par rapport à ce qui nous arrive. Est-ce qu'on a une réaction saine? Saine veut dire par rapport au dharma. Ou est-ce qu'au contraire, on a une réaction malsaine, c'est-à-dire en étant complètement dominé par une préoccupation qui, au moment de la mort, ne servira absolument à rien. Et là, le critère, c'est ça, c'est de se dire ce que ça là, que je suis, ce problème que je suis en train de vivre, au moment de la mort, ça aura quel sens ? Donc c'est voir notre réaction. Les préoccupations mondaines, c'est ça, c'est voir nos réactions par rapport aux événements et par rapport aux personnes. Comment on réagit ? Quand on est face à telle personne, est-ce qu'on a de l'attachement? Est-ce qu'on a trop d'attachement? Est-ce qu'on a de l'aversion? Est-ce que l'aversion nous domine? Et là, ça va être intéressant de regarder. Ces préoccupations mondaines, autre point principal, elles sont uniquement centrées sur nous-mêmes. Nous sommes le centre d'intérêt de ces préoccupations mondaines. Elles ne s'intéressent pas aux autres. Elles s'en fichent complètement des autres. Ce n'est pas la bodhicitta, c'est l'opposé du dharma. Hein. C'est pour ça qu'on faisait des plaisanteries entre le dharma et le dharma mondain. Hein. Le vrai dharma, c'est pratiquer la compassion, c'est être tourné vers les autres. Le dharma mondain, c'est être tourné constamment sur soi-même. Hein. Donc ces préoccupations mondaines sont exclusivement centrées sur nous-mêmes. Souci de réputation, souci de gain, souci d'éloge, etc. Elles sont tournées vers quoi ? Vers notre seul bonheur. Le bonheur des autres, zéro. C'est nous, être heureux nous-mêmes. Gagner, avoir des compliments, etc. Hein ? Donc c'est une réactivité émotionnelle, en fait, qui est de manière exacerbée, en fait, par ces préoccupations mondaines. Elles nous font réagir, ce sont des événements qui nous font réagir d'une manière excessive. Et donc, cette réactivité émotionnelle nous pousse à nous accrocher à ce que l'on considère comme favorable ou défavorable, à ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, hein, tout ça. Et ça va magnifier finalement toutes les difficultés qu'on rencontre dans la vie. Hein. Ça va leur donner une importance démesurée. C'est-à-dire que la moindre difficulté peut paraître quelque chose de gigantesque, alors que pour une autre personne, ça ne sera pas forcément très grave. Donc, et ça va nous empêcher de réaliser nos aspirations les plus profondes, qui sont forcément de l'amour, la bienveillance, etc. Ça contrecarre toute attitude positive d'amour et de bienveillance. Et donc, parce que ces préoccupations mondaines nous entraînent à, à créer toutes sortes d'actions négatives. Et nous amène toutes sortes de distractions hein, aussi. Donc la méditation sur l'impermanence, sur la mort aussi, est là pour contrecarrer cette tendance à nous préoccuper que de cette vie-ci. Voilà. Ouf. Et les questions ? On fait une dédicace et on arrête. Vous n'êtes pas découragé ? Au contraire, c'est un encouragement, je pense, à mettre la priorité sur ce qu'il faut. On prend le livret de compilation de prières de l'Institut à la page 16 pour les dédicaces. Je vais le partager sur l'écran. Page 16. Enfin, je suppose qu'on a tous le même. 16, c'est ça ? Allez, page 16, vous y êtes ? Oui, c'est ça. Gewadiye nyo dudam lama sangye drogyo ne drowa chikyon ma te yi sa la ge pa jo. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur, grâce à la richesse du dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité, et l'excellence. Jan chu sem chu rin po chi ma kye pa nam kye gyu chi kye pa nyam pa me pa yam gong ne gong du pel wa shu ton ye ta wa rin po chi ma kye pa nam kye gyu chi kye pa nyam pa me pa yam Payon gone gondo pelwashum. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. On va dire la prière de longue vie pour sa sainteté le Dalai Lama, la deuxième strophe seulement. Gangri Rawe. Gangri Rawe Korwe Shinkam De Pendant De Wa Malu Jongwe Ne Chenre Ziwan Tenzin Gatsoye Shape Site Badu Tengyo Chik. Donc ce soir, il n'y aura pas Vajrasattva. Hein, exceptionnellement, on fera la pratique, une pratique d'offrande au maître spirituel qui s'appelle Lamachepa. Donc vous êtes invités, hein, vous êtes bienvenus si vous le souhaitez. Ça sera aussi diffusé sur Zoom ce soir, hein, au lien des pratiques quotidiennes.
Oui.
Donc vous pouvez faire cette pratique avec nous en souvenir de en se reliant à l'Amasopa Rinpoche.
Oui, juste pour
ça sera à 8 heures.
Oui, et pour les gens qui veulent suivre sur Zoom, préparez vos textes, s'il vous plaît, parce qu'on n'aura pas la manière de le partager. Donc, si vous voulez suivre...
Je peux partager sur l'ordinateur ? Non ? D'accord.
Tu peux, mais la question, c'est tu peux partager et suivre. C'était plutôt que tu peux faire le puja tranquillement. Après,
ça va. Ça va. Oui. Si vous n'avez pas le texte, je le partagerai sur l'ordinateur. Ça va, c'est pas...
Sûr ?
Oui, c'est bon. C'est
ok, donc, c'est mais quand même...
Oui, si vous avez le texte, c'est mieux. Pour
c'est mieux, comme ça, vous êtes aussi un peu autonome.
Ouais. Hmm, il paraît qu'il y a des questions aussi par rapport à la retraite de cet été. Aurélie est venue me dire que vous vous posiez des questions pour la retraite de validation du cursus de découverte du bouddhisme pour cet été. Donc, ça a été résolu ou vous voulez que j'en reparle ? Donc, il y aura deux semaines de retraite cet été. La première semaine, c'est spécialement pour vous. Et ça va correspondre exactement à ce qu'on a fait pendant cette année, c'est-à-dire tous les modules du 1 au 7 ou 8, je ne sais plus. Ça va consister en des méditations et en des pratiques. Il n'y aura pas d'enseignement, hein, ce sera des pratiques méditatives essentiellement, autour des thèmes que l'on aura abordés pendant la mort, l'impermanence, voilà, pendant cette première année. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire la première semaine cette année et la deuxième semaine l'année suivante, hein, parce qu'il y a deux semaines en tout, hein, puisque on n'a pas couvert encore tout le programme. On l'aura couvert dans l'année suivante. Donc vous pouvez faire soit une semaine cette année et une autre semaine l'année suivante, ou vous pouvez faire les deux semaines l'année prochaine. Si vous n'êtes pas disponible, par exemple, cette année, vous pouvez vous rendre disponible l'année prochaine et faire à ce moment-là les deux semaines consécutivement. Voilà. Et la deuxième semaine, elle est plutôt réservée aux gens qui ont fait découverte du bouddhisme ou qui ont déjà médité sur le lamrim dans d'autres circonstances. Mais ça ne vous empêche pas, vous, si vous avez envie de suivre ces pratiques aussi. Hein, c'est pas... Mais ça ne comptera pas. Il faudra que vous refassiez quand même la deuxième semaine l'année prochaine. Voilà, donc... voilà. Les dates sont fixées, oui. Oui. Les dates sont... Vous n'avez pas les dates ? Ah, ben, je vais vous les donner. Vous devez... C'est fin août. C'est la première semaine, elle aura lieu du 18 au 25. Première semaine du 18 au 25 et la deuxième du 26 août au 2 septembre. 18-25 pour la première semaine, donc ça c'est pour vous. Et l'autre, 26 au 2, pour ceux qui ont déjà fait le cursus complet.
Et cette retraite peut être faite par Zoom aussi, enfin à distance ?
Oui. Oui, vous pouvez la faire à distance. Oui.
D'accord. Merci, Christian.
Mais vous devez faire toutes les pratiques à distance. Il n'y a pas de... Je pratique un jeu. On ne va pas surveiller si vous êtes là ou pas. Vous devez vous astreindre à faire toutes les sessions.
Bien sûr.
Voilà,
mais du coup, ça veut dire que si on... Moi, je travaille la nuit et ça veut dire que je peux être là le jour et sur 3 jours partir travailler. C'est possible.
Partir la nuit travailler ?
Oui.
Ça va être fatigant, hein. Ça va être costaud. Hein.
Christian, on parle de la retraite de Peba, c'est ça ?
Non, on parle de la retraite de l'Amrim du DB, découverte de bouddhisme.
Laquelle date ?
Du 18 au 25.
18 en...
25 août.
Août.
Première semaine, deuxième semaine, du 26 au 2.
Donc, la deuxième semaine, elle va
Robina.
Être transmise...
On oui. fait en tandem avec Robina.
Oui, elle va être transmise sur YouTube et Facebook, normalement, si tout va bien.
Sur YouTube, Facebook et sur Zoom. La première semaine, elle sera que sur Zoom.
Que sur Zoom, pour l'instant, oui.
La deuxième semaine du 26 au 2 septembre, j'avais écrit Robina et tu viens de parler, je n'ai pas bien compris.
Oui,
Robina qui fera la retraite ?
Tous les deux, c'est tous les deux.
Ah, c'est vous deux ?
Ouais. On va faire un tandem.
D'accord.
C'est... On va innover. Donc, je pense que Robina, on s'est organisé. Robina fera plutôt méditation et enseignement. Et puis moi aussi, un petit peu. Enfin, on va voir. On n'a pas encore trop. On ne sait pas trop comment on va faire. On va voir. Oui. D'autres choses ? D'autres questions ? C'est clair par rapport à ça ? Donc, vous devez, pour valider le cursus découverte du bouddhisme, vous devez absolument faire ces deux retraites, ces deux semaines de retraite. C'est ça qui valide pour avoir le diplôme.
que là, j'ai pas de. Moi, dans mon cas, je.
Vous n'avez pas envie d'aller. Oui, bah, alors c'est comme vous voulez. Hein. Oui. D'accord. Oui. Oui, bien sûr. Oui, très bien. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si c'est en distanciel, vous pouvez le faire de chez vous. Voilà. Sur Zoom. Ah, mais je peux même surveiller si vous êtes là. Et... J'ai des petites fenêtres. Là, je vois qui est là et qui n'est pas là. Et vous pouvez intervenir, bien sûr. Il y a toujours une période de questions-réponses en fin de journée où vous pouvez intervenir et tout ça. Ouais. Ouais. Cette semaine de la MRIM, elle change tout. Hein. On passe vraiment à un autre niveau. Et c'est ce que j'ai pu remarquer dans les fois, les années précédentes, où il y a un avant et il y a un après. Et quelque chose qui se passe pendant cette retraite. On est ensemble pendant une semaine et il y a quelque chose qui nous soude, par la pratique essentiellement. Et il y a plus de vécu. Au niveau de la, c'est plus une pratique. Ceux qui l'ont fait, peut-être un peu en témoigner. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti et ces témoignages que j'ai eus. Avant cette retraite, bon, c'est plus des informations que l'on emmagasine. Et ces informations prennent un peu plus de sens à partir du moment où l'on médite intensivement dessus. Voilà. Et après, la deuxième année, ça se renforce encore. C'est bon ? On arrête là ? Bon, merci à tout le monde. Merci aux gens qui sont sur Zoom d'être là, fidèles. Et à bientôt. Hein. Soyez présents demain pour la suite.